1 Corinthiens, chapitre 12. On va lire dans quelques instants. 1 Corinthiens, chapitre 12. J'ai l'honneur, le privilège, le droit, le devoir, tout ce qu'on veut, de prêcher sur 4 chapitres du Nouveau Testament. Rien que ça. 1 Corinthiens, chapitre 11, 12, 13, 14. Alors, on a déjà lu une partie de chapitre 13. On va pas, en principe, on va pas y revenir. On va lire quelque chose dans 1 Corinthiens 12 et tout à l'heure au chapitre 14. Mais j'aimerais donc résumer un peu ce texte et on va se concentrer sur deux aspects en particulier. Deux dons en particulier. Mais avant de nous attaquer aux dons, j'aimerais juste résumer très brièvement 1 Corinthiens chapitre 11 qui se divise en deux parties. Il y a la première partie du verset 1 au verset 16 et cette partie concerne les hommes et les femmes au culte. Et surtout, les habits au culte. Il est question des femmes mariées lors du culte, et en même temps, il est question des hommes lors du culte. Alors, nous n'allons pas lire tous ces textes, mais il est question des femmes mariées qui, lorsqu'elles venaient au culte à Corinthe, Paul dit, il faut se couvrir la tête. Alors, pourquoi? Alors, en partie pour montrer que vous êtes mariés à quelqu'un, à un homme, vous êtes marié, et aussi pour montrer que vous n'êtes pas comme les femmes du monde. C'est-à-dire beaucoup de femmes se faisaient couper les cheveux à la garçonne, comme on dirait aujourd'hui, ou alors les prostituées avaient les cheveux, la tête rasée. Et il fallait que les femmes chrétiennes montrent qu'elles étaient différentes. En ce qui concerne les hommes, Paul leur dit, il ne faut surtout pas que les hommes se couvrent la tête. Et il donne, voilà, la raison n'est pas donnée, mais c'est parce que lorsque les idolâtres allaient adorer des idoles et des faux dieux, ils se couvraient la tête, parfois le visage, devant leur statue, devant leur idole. Et Paul dit, mais si les hommes font ça dans leur culte païen, il faut pas que dans un culte chrétien, que les hommes se couvrent le visage et la tête, parce que il faut que les hommes se montrent différents. Et ça, c'est une clé de la compréhension de ces 16 versets. Être différent des autres. Différent ne veut pas dire supérieur, loin de là. Mais pour montrer que nous appartenons à Christ. Bien sûr, les femmes mariées aujourd'hui, pour montrer qu'ils sont mariées, très souvent, elles ont une alliance. Pas toujours, mais très souvent c'est le cas. Pour montrer, je suis marié. J'ai un mari dans ma vie. Les hommes et les femmes occultes. Dans la deuxième partie, de verset 17 au verset 34, de 1 Corinthiens chapitre 11, il est question de la Sainte Cène. Il y a l'origine de la Sainte Cène, la raison d'être de la Sainte Cène, et le sens, la signification. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ce matin? Et si vous voulez approfondir cette question de la Sainte Cène, je vous encourage à aller voir Eric et à vous inscrire au prochain cours ou rencontre des fondamentaux de la foi que Eric organise chaque année parce qu'il passe une matinée, une session sur la Sainte Cène. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ce n'est que du pain? Ce n'est que du vin ou du jus de raisin? Il n'y a rien de mystérieux, rien de surnaturel dans tout ça. Donc voilà, résumé de 1 Corinthiens 11. Maintenant, nous arrivons à 1 Corinthiens 12. Et 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13, pardon, 12 et 14, nous parlent des dons spirituels. Les dons que Dieu a donnés à l'Église, que Dieu donne à l'Église pour le service et pour que Dieu soit honoré et adoré. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13 font partie, pardon, 14, 12 et 14, font partie d'un groupe de chapitres qui parlent des dons. Il y a aussi Éphésiens 4, 1 Pierre 4, plus 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, et aussi ces listes ne sont certainement pas définitives ou exhaustives. Donc si vous voulez lire d'autres choses, vous pouvez les lire. Ce matin, donc, je vais me concentrer sur deux dons en particulier. le don de parler en langue et le don de la prophétie. J'aurais bien aimé prendre 2 heures pour chaque sujet, hein, mais on n'a pas 2 heures. Et on va lire d'abord 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Et je lis dans la Bible, second 21. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Vous voyez que le mot diversité revient 3 fois. Et rien que quand je vous regarde, je vois une diversité de têtes, de styles, d'habits, de couleurs. Et c'est tout à fait normal. Parce que nous ne sommes pas comme dans des sectes, on ne s'habille pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière, on n'a pas les mêmes coupes de cheveux, on n'a pas les mêmes couleurs de cravate. On est différent. C'est la diversité. Alors, les dons sont donnés pour le bien de tous. Alors, le don de parler en langue. Alors, ce dont je parle ce matin, c'est le vrai don de parler en langue. Parce qu'il y a des faux dons de parler en langue. Il y a des contrefaçons qui existent. Et je vais y toucher. Qu'est-ce que c'est le don de parler en langue? La définition. Il s'agit d'un don miraculeux de parler une langue étrangère grâce au Saint-Esprit. Le don est mentionné 5 fois dans le Nouveau Testament. Acte 2, Acte 10, Acte 19, brièvement mentionné, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Le don de parler une langue, le don de parler une langue étrangère grâce au Saint-Esprit. Il existe bel et bien des faux parler en langue. Je vais vous donner une liste de catégories de personnes qui parlent en langue. Et quand je dis qui parlent en langue, il ne s'agit pas de parler une langue étrangère qu'ils n'ont jamais appris, mais il s'agit de faire des sons, de répéter des sons et qui n'ont aucun sens. Je vous donne des exemples. Il y a des prêtres bouddhistes qui parlent en langue, une contrefaçon du don du Nouveau Testament. Il y a des médiums, des spirites, qui quand ils rentrent en contact avec les morts, c'est jamais en contact avec les morts, bien sûr, mais quand un médium ou un spirit essaie de contacter un esprit de quelqu'un qui est mort, souvent, ils parlent en langue. C'est un charabia, les mêmes sons qui sont répétés. Il y a des pratiquants de certains rites vaudou, où les gens parlent en langue. Il y a les certaines sœurs catholiques qui prient Marie, qui disent qu'elles parlent en langue. C'est-à-dire, elles répètent les mêmes phrases. Il y a quelques personnes atteintes de maladies mentales qui parlent et qui disent des choses et que personne ne comprend. Et c'est lié, bien sûr, à la maladie. Il y a des sorciers dans certaines tribus qui parlent en langue, en faisant des incantations, en vue de guérir. Il y a des membres de certaines sectes qui parlent en langue, qui ont ce faux don de parler en langue. Et il y a aussi les derviches musulmans. Alors, les derviches musulmans, c'est une secte musulmane, une secte d'ascètes qui se privent de tout, mais dans leur solitude, ils parlent pas dans leur langue maternelle, mais qui répètent des sons et des phrases qui n'ont aucun sens. Alors, je dis cela parce que dans 1 Jean, chapitre 4, il est écrit « Éprouvez les esprits ». C'est-à-dire, méfiez-vous de tout ce que vous entendez. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Même ceux qui se disent chrétiens, ou clergés, ou pasteurs ou autres. Nous devons toujours vérifier ce qu'on nous dit avec la vérité. Et si ce qu'on nous dit est contre la vérité, le choix est simple. On doit accepter ce que Dieu nous dit, et rejeter ce que disent les autres. Dans quelques minutes, je vais vous donner des exemples très concrets. Alors, le parler en langue. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit sur le parler en langue? Eh bien, d'abord, il s'agissait de véritables langues humaines. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Des Juifs sont venus de partout dans le monde, à Jérusalem, pour la fête. Et les disciples parlent dans des langues étrangères. Ils n'avaient jamais étudié ces langues. Mais les gens disent, il parle ma langue, il parle notre langue. Des gens se sont convertis. Deuxièmement, les langues étaient compréhensibles. Les étrangers en visite à Jérusalem, même s'ils venaient de Crète, de l'Asie mineure ou d'ailleurs, certains, ils ont compris les langues. Et ils ont témoigné. Mais ça, c'est notre langue. Ce n'est pas du charabia, ce n'est pas du son répété, mais c'était des véritables parler en langue. C'était un don qui était donné pour l'évangélisation. Parce que, après ce jour-là, il y a eu des gens qui se sont convertis. C'était donné pour faciliter la communication dans parmi un peuple où il y avait des gens de partout dans le monde. Rien de sorcier. Rien de compliqué avec ça. On lit acte 2 et ça saute aux yeux. Et comme je viens de dire, il y a eu donc des conversions et la Bible nous dit que c'était un signe pour les non-croyants. Dans Ésaïe 28, Dieu dit, je vais parler à mon peuple par des gens qui parlent une autre langue. Et dans un premier temps, il s'agissait des Assyriens qui allaient envoyer à Jérusalem au 8e siècle avec Jésus-Christ. Mais ce texte est cité dans 1 Corinthiens pour dire que même aujourd'hui, enfin au 1er siècle, Dieu allait parler au peuple non-croyant, c'est-à-dire aux Juifs non-croyants. Ça existe, il y a plein de Juifs aujourd'hui qui se disent non-croyants, qui se disent athées, mais qui se disent quand même « je suis juif ». Là, j'ai du mal à comprendre un peu ça, mais bon, ça n'a pas d'importance. Dieu a envoyé ce don pour être un signe pour les non-croyants. Et ce don n'a pas été donné à tous les chrétiens, mais à quelques chrétiens. Comme d'autres dons n'ont pas été donnés à tous les chrétiens, mais à quelques chrétiens. Ce qui est très important pour nous aujourd'hui, parce qu'il nous arrive de rencontrer des gens qui disent, je parle en langue, et toi, tu parles pas en langue? Oh, est-ce que tu es vraiment chrétien, David? Tous les chrétiens ne parlaient pas et ne parlent pas en langue aujourd'hui. Numéro 8. Lorsque quelqu'un parle en langue lors d'un culte, Paul dit, ça doit être interprété. Une traduction est nécessaire. Alors, on peut imaginer, quelqu'un arrive ici de Zimbabwe, on parle le Shona en Zimbabwe, et au culte, quelqu'un ici, un chrétien lambda, se lève et parle en Shona. Et le chrétien de Zimbabwe va comprendre et sera capable de traduire et de dire, mais voilà ce que cette sœur ou ce frère vient de me dire. Ça peut être un verset biblique, ça peut être autre chose. Tout doit être traduit. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, il y a des moments où les gens se lèvent tous pour parler en langue ensemble et personne ne comprend rien. Ou alors les gens se lèvent pour chanter en langue. Et dans la Bible, il n'est jamais question de chanter en langue. Aussi, ce n'est pas le don le plus important. Il y a des dons qui sont plus importants que le parler en langue. Et le parler en langue a été donné, comme tous les dons, pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Non pas pour ma gloire, puisque je parle en langue plus que vous tous, c'est formidable. Mettez-vous à mes pieds, adorez-moi. Non. Même si on trouve cette attitude parfois chez certaines personnes. C'est pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Ce qui veut dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vous prend de haut, du haut, en vous disant, vous ne parlez pas en langue, eh bien, ne soyez pas déstabilisés. Personne n'a le droit de nous culpabiliser si nous n'avons pas telle ou telle langue, tel ou tel don. Ne soyez pas déconcertés lorsque vous rencontrez quelqu'un qui met en doute votre conversion si vous ne parlez pas en langue. Si quelqu'un vous dit, ah, mais tous parlent en langue, donc est-ce que vous êtes vraiment converti? On a des témoignages de gens qui ont parlé en langue et des années plus tard disent, mais voilà comment j'ai appris à, entre guillemets, parler en langue. et qui ont admis qu'ils n'étaient jamais convertis. Il existe des chrétiens qui nous donnent l'impression qu'on est nul s'ils ne parlent pas en langue. Alors, aucun chrétien n'est nul devant le Seigneur. Et si quelqu'un vous dit, vous pouvez ou vous devez parler en langue, eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas raison. C'est-à-dire, ils ont tort. Tous les chrétiens ne doivent pas parler en langue. Et même si des chrétiens vous donnent des méthodes et des techniques, je pourrais vous énumérer des techniques qu'on m'a dit, qu'on m'a donné pour que je parle en langue. Mais le don surnaturel, pas besoin de technique. C'était donc donné le jour de la Pentecôte aux disciples et ils n'ont pas appris des techniques. Et d'ailleurs, selon des linguistes aujourd'hui qui étudient les langues étrangères en particulier, ces gens-là, les spécialistes, ont étudié des enregistrements de gens qui, entre guillemets, parlent en langue. Et vu les formules, vu ce qui est répété, ces spécialistes des langues étrangères affirment, mais ce n'est pas une langue étrangère que les gens parlent. C'est des sons qui sont répétés, dans la plupart des cas. Donc, il faut être très, très au clair par rapport à ça, parce que je rencontre des chrétiens qui sont déstabilisés par tel chrétien qui dit, mais si tu parles pas en langue, tu as un souci, tu as un péché dans ta vie. Il faut confesser, il faut être délivré. Et je connais quelqu'un qui peut te délivrer de tous tes péchés. Moi aussi, c'est Jésus. Mais bon, il parle de quelqu'un d'autre. Le phénomène de parler en langue de nos jours doit être comparé toujours, comme tout phénomène, avec la parole de Dieu. Et même si la majorité dit une chose et la parole de Dieu dit autre chose, ne suivez pas la majorité. Suivez ce que Dieu dit dans sa parole. 10 aspects du don du parler en langue. Maintenant, le don de la prophétie. Comment définir le don de la prophétie? Certains disent, ah, c'est prédire l'avenir. Alors, selon le Nouveau Testament, voici la définition de l'apôtre Paul. Celui qui prophétise parle aux hommes et aux femmes et aux enfants, les édifie, les encourage, les exhorte. On ne peut plus simple. La définition biblique du don de la prophétie. Que ce soit vrai pour qu'on pense aux prophètes de l'Ancien Testament ou aux prophètes dans le Nouveau Testament, c'est la même définition. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de Messie qui allait venir, mais ils prêchaient la parole de Dieu. Ils prédisaient, mais surtout ils prêchaient. Et parfois ils réprimandaient. Ils avertissaient. Ils enseignaient. Parfois ils consolaient. Et le don de la prophétie est un don qui est fort intéressant. Et ce don peut se pratiquer dans le 1-1. On parle à quelqu'un. Et un frère, une sœur en Christ. Et la personne dit quelque chose qui me va droit au cœur. C'est comme si c'est Dieu qui me parlait par la personne, peut-être. Ce don peut se pratiquer dans le 1-1, dans un petit groupe, où quelqu'un dit quelque chose. Et, ah oui, Seigneur, ça c'est pour moi. Ça peut se pratiquer aussi quand vous allez chez quelqu'un pour un conseil. Et quelqu'un qui ne connaît peut-être pas toute votre vie, mais qui donne un conseil qui tombe à pic. Ou qui donne une pensée, ou qui donne un verset biblique, qui tombe à pic. On peut dire, mais c'était une parole prophétique. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais invité dans une église, et un chrétien a amené, c'était plutôt des jeunes, un chrétien a amené ses enfants, et au lieu de repartir, il est resté. Ok, donc il est resté avec tous ces jeunes, pas de souci. Et puis on a fait des lectures bibliques, et on a fait le tour de la table, et il était là, assis à table, et le verset qu'il devait lire était le verset dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Travaillez car votre travail n'est pas en vain. » Donc, il a lu ce verset haute voix. Très bien. Quelques jours plus tard, il vient me voir pour dire, David, ce soir-là, j'étais vraiment abattu. Tout allait mal. La famille, l'église, le travail, tout allait mal. Et je me suis dit, est-ce que je devrais persévérer? Et tu as choisi ce verset-là. J'ai dit, mais moi, j'ai pas choisi, hein, c'était au tour de rôle. Ce verset tombe sur toi, entre guillemets, tombe sur toi. Et il a lu, il a dit, mais ça m'a regonflé à bloc. Alors, c'était pas une parole prophétique de moi, c'était un verset biblique qui tombait pile poil pour sa situation. Et ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Dans une prédication, Dieu peut nous parler à notre cœur. Lors d'une étude biblique, une parole banale peut être vraiment une parole fondamentale pour telle chrétienne, tel chrétien, tel non-chrétien présent. Dieu connaît le cœur. Dieu inspire les gens qui prennent en principe la parole en public. Un évangéliste qui vient prêcher l'évangile. Il y a quelques années, on avait invité Alain Chouaquier, évangéliste à l'époque, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, et il faisait vendredi, samedi, dimanche, 4 réunions d'évangélisation, 2 dimanches, samedi soir et vendredi soir. Il vient chez nous vendredi après-midi, il mange chez nous vendredi soir, et puis on l'amène à la réunion. Il prêche. On était hyper déçus, parce qu'on était 14 personnes. On avait fait une pub de malade, 14 personnes. Ça, c'était l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que 7 étaient non-chrétiens. Bon, ça, c'était pas mal, hein, 50%. À la fin de sa prédication, 2 personnes sont venues voir Brigitte et moi. Et pour dire, mais il m'a parlé comme s'il me connaissait. Et une de ces 2 personnes que nous connaissions très bien a dit, David, pourquoi est-ce que tu lui as parlé de ce que je t'avais confié à table ce soir? Tu n'as pas le droit de partager ce que je te confie. Et j'ai dit, ben, je n'ai jamais parlé de toi ce soir. Et le gars m'a dit, mais c'est comme si il me connaissait. Et j'ai dit, ben, si Dieu te cherche. Et cet homme s'est converti. Il est devenu ancien dans l'église, enfin, quelques années plus tard. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et encore, il faut pas, il n'y a rien de mystique avec tout ça. C'est Dieu qui parle par la prédication de sa parole. Alors, ceci dit, nous devons aussi nous méfier de ceux qui prétendent être prophétesses ou prophètes. Je donne quelques exemples. J'ai assisté à une réunion, un culte, dans une église même COF, où quelqu'un s'est levé pendant le culte pour dire, le Seigneur m'a révélé qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au dos. Je vous encourage, ma sœur, mon frère, de vous confier à l'Éternel. Alors, nous sommes 80 peut-être ce matin, je me demande qui ou combien ont mal au dos. Ou combien n'ont pas mal au dos. Alors, des gens qui se prennent pour des prophètes, mais quand on creuse, et il laisse à désirer. Je pense à un couple chrétien en difficulté que nous avons rencontré lors d'un camp il y a des années. Et ils viennent nous voir pour parler de leur situation, pour demander conseil et prière. Et en discutant, on a eu l'idée, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous vous connaissiez bien avant de vous marier? Et leur réponse, ah bah tu sais David, Brigitte, tu sais, on était au culte un dimanche, j'étais là, célibataire, dit le garçon, le frère, et puis pendant le culte, un prophète s'est levé et m'a indiqué du doigt pour dire, toi, il l'a nommé, Dieu m'a révélé que tu dois te marier avec cette sœur qu'il a nommée. Et ils ont dit, mais puisque Dieu nous a dit, on l'a fait. En 6 mois, on était pas amoureux, mais on était mariés. Et 5 ans plus tard, et 3 enfants plus tard, je vous explique pas. Là, j'ai failli dire le caca, mais bon, la situation compliquée dans laquelle ils étaient. Parce que, mais Dieu a dit à ce frère, donc on a obéi. Si quelqu'un vous dit ça, je vous encourage à vous méfier et en parler à un ancien pour vous demander son avis. Autre exemple. Une femme d'affaires chrétiennes en difficulté, que nous connaissons bien. Elle a appelé un jeune couple d'une église dont on était responsable il y a quelques années pour dire, écoute, je dois, dans mon travail, je dois acheter une machine pour mon entreprise. J'ai pas assez d'argent. J'ai besoin d'un prêt bancaire. Et j'ai besoin d'un quelqu'un qui se porte garant. À cette dame savait que le jeune couple, tous les deux, travaillaient. Dieu m'a dit que vous devez vous porter garant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, d'accord, ok. 2 ans plus tard, la dame, ce qui devait arriver, arriva. La dame fit faillite. Qui devait payer le prêt bancaire? Le couple. À ce moment-là, le couple vient nous voir pour nous dire on a un souci financier. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Il nous explique. On n'en savait rien. Et on leur dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé conseil à quelqu'un d'autre avant de vous engager? Ils disent, mais parce que d'abord, la sœur a dit, Dieu m'a dit que c'est vous. Donc on ne voulait pas désobéir à Dieu. Et ensuite, la sœur nous a dit, n'en parlez pas aux autres. C'est entre vous, moi et le Seigneur. Elle n'a pas ajouté, et la banque. Ce couple s'est retrouvé sur leurs pieds quelques années plus tard. Mais tout ça pour dire, il y a des gens qui manipulent. Et faites attention que personne ne vous manipule. Si Dieu dit quelque chose à quelqu'un pour vous, Dieu va vous le dire d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Et pour les grandes décisions de la vie, bien sûr, il faut demander conseil à des gens de confiance. Dieu peut mettre des gens comme ça sur votre chemin. Autre chose, et ça s'est fait aussi dans certaines églises évangéliques que je connais et que j'ai visitées. Il faut venir un prophète. Et ce prophète demande aux gens de venir en petit groupe et devant, admettons, 10 personnes, il prend une chaise, il va s'asseoir devant chaque personne et prédit l'avenir. Alors, les prédictions sont très souvent floues, un peu comme l'horoscope du journal. Ou parfois, la personne s'est déjà renseignée auprès des anciens sur certaines personnes qui sont là. Donc, il connaît. Ah, cette dame, elle est divorcée. Ok. La personne parle comme si Dieu lui avait révélé qu'elle avait été divorcée il y a 20 ans et qu'elle souffrait encore aujourd'hui, patati patata, ou une opération. C'est de la tricherie, de la manipulation, du mensonge. Mais aussi, ça montre que certains chrétiens veulent savoir ce qui va nous arriver à l'avenir. Et encore, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et il aplanira ta voie, ton chemin. N'allez pas consulter des gens qui vont vous prédire votre avenir. Dieu, votre avenir est dans sa main. Et sa parole vous conduira jour après jour. Et vous dira tous les jours comment vous devez vivre. Mais si vous ne lisez pas la Bible tous les jours, bon, vous êtes mabarré, mais devez. La Bible, tous les jours, nous prévient, nous parle, nous éduque, nous enseigne, nous corrige. Merci Seigneur pour sa parole. Méfiez-vous donc de ces gens-là qui veulent se faire voir et qui veulent avoir une main sur nous parfois. Et parfois, si on ne fait pas ce que la personne demande, parfois on subit sa colère. Et tout ça n'a rien de biblique. Je vais conclure. D'abord, 2 choses pour conclure. Ceux qui enseignent la parole, en public, en privé, en 1 à 1, ou même à l'école du dimanche, ou ceux qui animent une étude biblique ou une réunion de prière, tout chrétien peut avoir un ministère, je veux dire, prophétique. Dans le sens que on peut édifier un autre, on peut enseigner un autre, on peut réconforter un autre, On peut instruire un autre. On peut reprendre un autre. Et tout ça en vue de construire et de bâtir une vie qui sert à glorifier le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'essentiel dans la vie du chrétien, ou une des choses essentielles. Ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas mes dons ou mes talents. L'essentiel, c'est le fruit que je porte. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et on pourrait rallonger la liste. Ce qui compte, c'est ce que je suis, non pas ce que je fais. Est-ce que ce que je suis attire d'autres à Christ? Ou est-ce que ce que je suis repousse d'autres? L'essentiel, ce n'est pas le don, mais c'est le fruit. L'être est plus important que le faire. Ce que je suis est plus important que ce que je fais. Et Paul dit au début d'un Corinthiens 13, même si j'ai tous les dons et tous les talents, si je n'ai pas l'amour, je ne vaux R-I-E-N. Niet. Rien. Nothing. Et il y a des gens qui ont plein de talents. Et si l'amour n'est pas là, eh bien, il manque d'essentiel. Alors, l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude du psalmiste. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta vérité. Il y a un autre verset qui m'est venu à l'esprit au début du culte ce matin, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu vous a tous donné des dons et des talents. Utilisez-les, découvrez-les, allez voir les anciens pour en parler, pour que ce soit utile pour les chrétiens, qu'on puisse toucher des non-chrétiens, et qu'en toute chose, Dieu seul soit exalté et glorifié. C'est ça, la raison d'être de nos dons. Prions. Notre bon Père Céleste, merci car tu donnes des dons, des cadeaux, des talents à tes enfants. Merci pour chaque personne ici qui t'appartient et qui a reçu des choses. Aide-nous tous, Seigneur, à mettre nos dons à ton service, au service des autres. Aide-nous à chercher à nous faire du bien les uns aux autres. Et aide-nous, Seigneur, par notre vie, à te glorifier. Et nous te prions de faire produire ce beau fruit dans notre vie, afin que nous puissions porter du fruit et que des gens puissent voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.